Et maintenant, un bon podcast.
Et hop, on saute sur une autre interview faite aussi lors du salon de Essen version 2007, où nous avons eu le plaisir de rencontrer Philippe de Palière. Philippe de Palière qui nous parle de ses jeux, de son actualité, mais aussi de son voyage au Québec, puisque étant connu pour le fameux loup-garou de tiercelieu créé avec Hervé Marly, eh bien, il a voulu rencontrer ses joueurs en faisant des tournées à travers l'Europe et même plus puisqu'il est parti au Québec dernièrement. Les loups-garous de tiercelieu, c'est une des créations de Philippe de Palière avec Hervé Marly. Hervé Marly qui est aussi connu pour le fameux Petit meurtre et fait divers dont vous retrouverez un podcast sur le site des Soirées Terribles. Mais Philippe de Palière, c'est aussi une philosophie de création de jeux, une façon de créer des jeux. Et à chaque fois, un grand plaisir de le rencontrer. Et je vous laisse écouter ça tout de suite.
Voilà, et je suis en compagnie de Philippe de Palière. Bonjour Philippe de Palière.
Bonjour.
Qui est à Essen et je vais lui demander pourquoi il est à Essen justement.
Je suis à Essen parce que je vais à Essen tous les ans et que j'ai une bande de copains et qu'on a un hôtel sympa et voilà.
Déjà une excellente raison.
Ça fait maintenant... La première fois que j'étais à Essen, c'était il y a 20 ans et depuis à peu près 12 ans, j'y vais tous les ans.
On vous a croisé l'année passée, vous étiez là à Essen l'année passée, je pense. Moi, j'ai vu des tables de loup-garou, évidemment, puisque Philippe de Palière est quand même principalement connu parce que il est à l'origine du fameux jeu loup-garou, mais aussi des jeux comme Objet Trouvé. On peut peut-être faire un petit panel de vos activités en dehors de ces jeux-là qu'on connaît déjà.
Eh bien, d'abord, depuis un certain temps, j'ai deux casquettes. Je suis à la fois auteur et éditeur. Donc, en tant qu'auteur, je crois qu'il y a eu une trentaine de jeux édités en une vingtaine d'années. Le premier, c'était un très vieux jeu qui s'appelait Armada. J'étais étudiant et ça a décidé mon changement d'orientation professionnelle. Récemment, les jeux les plus connus, c'est évidemment les loups-garous de tiercelieu. En France, beaucoup La Guerre des Moutons, je ne sais pas si en Belgique il fonctionne aussi. Les Objets Trouvés, qui est mon petit dernier que j'aime beaucoup. Il y a eu un jeu qui s'appelait Shazam.
Alors justement, chaque auteur a sa façon de, on va dire, de travailler ou de capter les idées qui surgissent. Comment est-ce que vous travaillez par rapport à l'idée jusqu'à la création du jeu?
Moi, ce qui m'amuse, c'est de changer de manière de travailler à chaque fois. Moi, je dirais qu'il y a des auteurs, comme au cinéma ou en littérature, qui font à chaque fois une meilleure copie du même objet artistique et qui travaillent une veine et qui la creusent. En général, moi, j'aime bien changer et à chaque fois attaquer un genre ou une tranche d'âge ou un type de jeu que je n'avais jamais attaqué. Il y a des exceptions, bien sûr. J'ai des marottes, mais voilà. Après, sur la manière de démarrer, ça change aussi. J'ai beaucoup travaillé pour des jeux de commande où il y a quelqu'un qui vous dit « Allez, il me faut un jeu comme ça, comme ça, comme ça ». C'est assez agréable parce que ça vous canalise et ça fait un petit challenge. Il y en a une autre série où c'est des mécanismes sur lesquels je travaille. Et la principale manière de travailler, c'est ça. C'est qu'il y a des mécanismes dans un coin, je les range dans un coin du cerveau ou dans un coin d'un placard, et des thèmes apparaissent après, ça peut être 15 ans après, et tout d'un coup, ils sont faits pour s'adapter à ça. J'aime beaucoup, quand je travaille sur les thèmes, que le jeu et le thème soient vraiment très proches, quoi. Voilà.
C'est assez fréquent d'avoir des idées de jeux qui traînent, entre guillemets, très longtemps?
Ma manière, oui, c'est très fréquent. Soit parce que moi, je ne suis pas content de l'aboutissement, et dans ce cas-là, je ne m'obstine pas. Je laisse reposer et je fais confiance à mon cerveau pour me dire à quel moment il a envie d'y retravailler. Il y a d'autres choses où vous êtes quelquefois en avance ou en retard sur une mode. Le jeu, c'est aussi un phénomène de mode. Et vous avez pu avoir une idée très très bonne il y a 10 ans, mais qui marchait pas parce que les éditeurs ou le public n'étaient pas prêts à l'accueillir. Et il faut savoir la faire attendre et ne pas vouloir tout de suite sortir quelque chose.
Et justement, si on prend un jeu comme Objet Trouvé, la réflexion qui a eu lieu, c'est quoi?
Objet Trouvé, ça part il y a 4-5 ans d'une envie. Comme vous avez vu, j'amène des jeux de brocante, etc. Et donc, je suis vraiment un fan des vide-greniers, des brocantes. Et une fois, dans un dans un, je ne sais pas comment on appelle chez vous, mais un brocanteur. Il y avait des grandes caisses avec n'importe quoi. Et j'ai décidé d'essayer de trouver une idée où on mettrait n'importe quoi dans une boîte de jeux. Il y a eu plusieurs jeux qui sont nés de ça, jusqu'à arriver à Objet Trouvé. Et Objet Trouvé, ça a été au moment où on a fait, pas longtemps, un site internet avec un ami. On voulait faire des objets d'art uniques. Et Objet Trouvé, mon idée, c'était de faire une cinquantaine d'objets en ramassant des boîtes et des objets et de calibrer un jeu pour une personne. Et de mettre des objets, de faire des questions qui avaient rapport avec cette personne qui achèterait une œuvre d'art. Et un été, j'ai été invité chez Asmodée à boire un pot, à manger tranquille. Il y avait un directeur de Days of Wonder qui était là aussi. Et je, pour déconner, je leur ai dit on va faire un petit jeu. Mais vraiment pour déconner. Et ils m'ont dit tous les deux, on l'édite, c'est super. Et je dis, mais non, c'est pas du tout prévu pour l'édition, c'est juste un joke. Et puis finalement, ils se sont battus tous les deux et Asmodée a gagné puisque c'était dans ses locaux. Il a dit, c'est chez moi, c'est moi qui décide. Donc c'est comme ça qu'est née cette histoire à laquelle je ne croyais pas du tout.
C'est souvent comme ça que ça marche.
Voilà. Mais je pensais pas faire un jeu éditable.
Alors, votre présence aujourd'hui, enfin, ces 4 jours à Essen, c'est lié à quelle actualité ?
Bon, ben, c'est un entretien des relations avec tous les pays étrangers, puisque comme je suis aussi éditeur d'un certain nombre de mes jeux, et même en tant qu'auteur, c'est moi qui m'occupe de les commercialiser dans chaque pays. Et Essen et Nuremberg sont deux rendez-vous incontournables pour faire avancer les projets dans tous les pays. C'est aussi pour ça que j'étais au Québec le mois dernier, etc. Donc là, j'y suis pour ça. J'y suis aussi pour des jeux qui sortent dans des versions différentes. Donc là, il y a Shazam qui est sorti en anglais pour l'Amérique, mais aussi pour les petits pays qui n'ont pas la version française. Et il y a donc un jeu qui sort chez Phalanx, dont je ne suis pas l'auteur, mais dont je suis l'éditeur et un des développeurs, voilà. Et qui est un jeu de Dominique Erhard et de Michel Lallet. D'autre part, j'ai quand même 2-3 mini-prototypes dans la poche et je discute avec les éditeurs dans mon bureau qui est le café central. Voilà.
Bien, bien. On peut avoir soulever un petit peu le voile sur ce qui pourrait éventuellement sortir dans un futur proche ?
Mais dans un futur proche, il y a l'édition originale du jeu sur lequel... Qui s'appelle Lasco, qui va sortir en français dans ma société lui-même. On est sur les phases finales. Notre distributeur hollandais a été un peu pressé de le sortir avant nous. On est un petit. Il aimait le jeu, il a voulu sortir avant que je lui dise que c'était OK. Il a gardé une étape un peu ancienne du prototype. Si vous avez le courage, il faut mieux attendre la vraie version. Voilà.
Ça en fera un collector comme un timbre auquel il manque des dents. Et justement, quel est le mécanisme de Lasco ?
Bah, c'est un très beau mécanisme créé par Dominique Erhard et avec un grand apport de Michel Lallet. Je ne présente pas Dominique Erhard, mais pour certains, Michel Lallet, ils ne savent pas que c'est l'auteur d'Abalone et un agent d'énormément d'auteurs français. Et qui a publié par ce fait ou fait publier plusieurs centaines de jeux. Donc c'est un vrai professionnel du jeu qui en général n'apparaît pas puisque à part Abalone, son nom n'est pas en haut des boîtes, mais il est souvent très présent dans les réglages. Moi, il est mon agent de temps en temps pour certains pays, pour des jeux, et c'est lui qui est à l'origine de la version allemande d'Objet Trouvé, par exemple. Donc ça, je vous présente les gens. Le mécanisme, c'est un très beau mécanisme que je trouve très pur, qui est par ailleurs un mécanisme qu'on peut retrouver à peu près, mais pas tout à fait, dans un jeu qu'on a vu passer, qu'on aime bien, qui est No Mercy. Donc il y a un système de mise. Et en même temps, on pourrait dire que c'est... Si on caricaturait mal le jeu, on dirait que c'est un mélange de Coloretto et de No Mercy. Mais il est... à mon avis, unique et extraordinaire. C'est-à-dire que on va essayer de collecter des cartes et pour ça, on va parier pour être le premier à choisir un certain nombre de cartes. Et on a des mises qui vont nous servir sur nos enchères. Mais c'est un très 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 bon jeu de bluff et d'opportunisme pour ceux qui aiment ça. C'est pas un jeu très long et il dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Il se joue de 3 à 5 d'une manière parfaite. Et son seul défaut, c'est que même si c'est un jeu très rapide et très vivant, il faut réfléchir très vite. Alors justement, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des tas de jeux où la réflexion entraîne la lenteur du jeu. Mais là, comme vous misez, au moment que vous misez, et ça se fait assez vite, il faut que votre cerveau repère tous les codes des autres et que vous soyez capable de prendre des décisions très très rapides. Et pourtant, très étayées par une réflexion. Ce qui fait qu'en général, on ne fait pas tout de suite deux parties de suite parce que ça a beaucoup sollicité nos neurones. Voilà. Mais c'est vraiment fabuleux. Les joueurs de bridge professionnels à qui j'ai fait jouer jouent beaucoup à ça maintenant.
Une belle publicité alors, hein. une belle validation du mécanisme.
Par contre, l'état actuel du jeu chez Phalanx est un état préliminaire chez nous qui était un peu plus lourd et légèrement plus hasardeux. Et entre-temps, on a changé les choses, mais voilà. Donc ils feront une seconde édition.
Oui, bah oui, c'est... pourquoi pas. Qu'est-ce qui fait dans le cerveau de l'expérience, bourrer l'expérience de Philippe de Palière, qu'un jeu démarre où vous vous dites que c'est bon, il faut l'éditer ou il faut le faire évoluer?
Personne n'a jamais eu une des recettes là-dessus. Quand on commence dans le milieu du jeu, on croit qu'on va apporter quelque chose de très nouveau. C'est le privilège de la jeunesse. Et pour paraphraser une chanson chantée par Jean Gabin il y a très longtemps, plus on avance, plus on sait qu'on ne sait pas. Donc moi, ma manière de faire, c'est juste un acte d'amour. C'est-à-dire, j'aime ça. Je pense que des gens vont aimer, mais avant tout, j'aime ça. Je pense que la réflexion marketing sur un jeu, en tout cas sur un jeu de société et sur des jeux d'auteur, j'aime pas. C'est pas, ouais, ces gens-là vont aimer, les enfants vont aimer, les geeks vont aimer. Non, c'est j'aime et j'espère que le plus de gens possible vont aimer. Donc pour moi, c'est un acte d'amour. D'autant plus que comme je suis auteur de jeux aussi, pour éditer le jeu d'un autre, il faut que j'en sois amoureux à tel point que j'oublie que c'est pas moi qui l'ai fait, quoi. Donc c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup. Je dois en faire un tous les deux ans d'un autre auteur. J'en ai d'autres en tête. Mais quand je le fais... Au début, j'ai eu peur d'éditer quelqu'un d'autre en me disant « Ouais, je vais perdre un peu parce que d'habitude, je suis auteur. » Et quand j'ai publié Medici et sur ce truc-là, on s'aperçoit que quand on édite son propre jeu, on est fier comme quand on passe un examen. Et quand on édite le jeu d'un autre auteur, on est fier comme quand ses enfants réussissent un examen.
Eh ben c'est chouette, merci. C'est une belle définition. C'est effectivement l'amour du jeu qui fait qu'on est tous là, en gros.
Ouais, je pense.
Eh bien, on peut parler un tout petit peu du voyage au Québec ?
Ben bien sûr, oui. Après la tournée belge que j'avais fait l'année d'avant, je suggère à chacun de mes distributeurs d'organiser ça, donc on le fait ensemble. Et j'ai été invité par le Valet de Cœur, qui est à la fois une énorme boutique, une des plus belles boutiques francophones du monde, je pense, sur un espace gigantesque en plein cœur de Montréal, dans le quartier francophone, ils appellent ça, je ne sais plus, dans la plus belle rue. Mais ce n'est pas seulement une boutique, c'est aussi toute une équipe qui connaît les jeux depuis plus de 30 ans pour les patrons et avec plein de gens qui travaillent là-dedans et qui sont fabuleux et très charmants. Je ne peux pas départager les Belges et les Québécois pour l'accueil et la sympathie. Ils sont tous les deux tous aussi sympathiques. Moi, ce qui m'a surpris, ben, effectivement, c'est la première fois que j'allais sur le Nouveau Monde, sur le Nouveau Continent. Donc j'ai été un peu fasciné. Le marché du jeu est un peu, je dirais, il ressemble à ce qu'on a connu il y a 15 ans dans la vieille Europe. Donc ils sont en train de frétiller de partout. Il y a des auteurs, il y a des petits éditeurs. Il y a des week-end jeux comme on fait nous, où ils sont 250, 300. Tout est plus grand que chez nous. Il y a des salons que j'aime beaucoup au niveau professionnel. Ils ont un système qui est très agréable. Ils se réunissent tous dans un grand hôtel avec les magasins. La journée, ils font du business. Et le soir, ils boivent, ils jouent, ils mangent ensemble. Et ils jouent aux jeux ensemble, quoi. Les magasins, les boutiques, tout ça. C'est un pays qui... Alors pour moi, c'est aussi mon meilleur... Les meilleurs résultats pour les loups-garous au monde, c'est au Québec. Enfin, quand je dis meilleurs résultats, c'est par habitant, quoi. C'est que pour 7 millions de francophones, ils ont vendu l'année dernière 20 000 jeux. C'est énorme. C'est énorme. Donc je voulais voir qui étaient ces gens, quoi. Et puis... Le distributeur, le Valet de Cœur, travaille avec moi sur plein d'autres jeux. C'est-à-dire qu'ils sont fidèles à ma gamme entière. Les aider pour expliquer tel et tel jeu. C'est un partenariat vraiment très agréable. Et puis évidemment, on a fait un petit peu de vacances. Parce que j'ai tiré des leçons de la Belgique où j'ai pas eu 3 heures à moi.
On va arranger ça.
Donc à part visiter les bars en Belgique, j'ai pas eu le temps de faire de tourisme, alors que là je me suis gardé une semaine pour aller me promener.
Il va falloir repenser ça, il va falloir revenir, on fera plus de tourisme que de baritude.
Voilà.
Parfait. Ben, un tout grand merci pour cet échange. Et à très bientôt. Et effectivement, je crois qu'on peut tous le dire, on aime vos jeux comme vous les aimez, parce qu'à chaque fois c'est une découverte magnifique. Donc,
merci beaucoup.
À très bientôt. Merci.